parole au travail, une série documentaire de Christophe Massot.
Bonjour à tous et à toutes. Nous sommes ensemble sur Radio Grenouille pour une émission de la parole au travail. Jean-Pierre Gomez est un professeur en sciences de gestion à l'école de commerce de Lyon. Une école réputée, un professeur réputé. Ce professeur a écrit un livre, Le travail invisible. L'élément nouveau, à peine perceptible et décisif, écrit-il, c'est que le travail est devenu invisible. Évidemment, il ne l'est pas devenu pour ceux qui travaillent. Ils l'ont sous les yeux et au bout des doigts. Ils l'ont sur le dos. Il peut même rester sur l'estomac. Il est devenu invisible à ceux qu'on appelle aujourd'hui les managers, mais que l'on peut continuer à appeler les directions, les contremaîtres ou l'encadrement. Il y a donc ce constat. Aux yeux de ceux qui dirigent le travail, qui l'organisent, le divisent, l'évaluent, le rémunèrent, le travail est devenu invisible. Que signifie cette anomalie? Il ne s'agit pas aujourd'hui de démêler les fils d'une histoire aux nombreuses intrigues. Mais si le travail est devenu invisible, c'est que ceux qui le font n'ont plus la parole. Dans le monde professionnel, le silence sur la question de la qualité du travail peut se faire assourdissant, nous dit Yves Collot, professeur de psychologie du travail au Conservatoire national des arts et métiers. Sous l'empire de la communication et de la transparence, les mondes professionnels sont devenus des lieux de silence. Alors aujourd'hui, écoutons ensemble un médecin urgentiste. Écoutons comment travailler dans des services d'urgence, c'est maintenir une petite flamme allumée quand tout semble éteint. Voyons aussi ce qui fait vaciller cette flamme et ce qui risque de l'éteindre. Bonne écoute sur Radio Grenouille.
Le principe de la médecine d'urgence, c'est que tu es toujours la dernière lumière allumée. On essaie de réduire l'effectif des infirmières. Je veux dire, il ne s'agit pas de se plaindre sur les conditions de travail. Ce n'est pas le problème. Moi, je veux bien être surchargé. Ce n'est pas grave si je suis fatigué. C'est même pas grave si je fais un infarctus à 50 ans. Mais ça me dérange de tuer des gens. Ça me gêne. Le SAMU, donc la centrale d'appel, reçoit un coup de fil. Mon mari a une douleur dans la poitrine, il est tout blanc, il est en sueur, il fume beaucoup de cigarettes et son père a déjà fait un infarctus. Donc là, le médecin régulateur, s'il est normalement cérébré, il va dire il fait peut-être un infarctus, on va vous envoyer une équipe médicale. Là, de l'hôpital, tu as une équipe médicale, c'est-à-dire une infirmière, un chauffeur et un médecin, qui vont parcourir avec la sirène le trajet en essayant de mettre le moins de temps possible. Donc ça, c'est les voitures que tu vois filer pimpon avec marqué SAMU, généralement. Ils arrivent sur les lieux où, généralement, les pompiers sont aussi là, parce qu'on ne peut pas nous transporter avec la voiture qui n'est dédiée qu'au matériel et au personnel médical. On est auprès de la personne, donc on arrive, le monsieur, il a une cinquantaine d'années, il est tout blanc, il est en sueur, il respire très mal. Et donc on sort de la voiture, le médecin généralement il a sa petite fiche, parce qu'il a une petite cervelle, donc il oublie tout, donc il écrit beaucoup. Les trois personnes, donc le chauffeur, l'infirmière, le médecin, prennent le matériel dans la voiture. Donc généralement, tu as ce qu'on appelle un scope, c'est-à-dire un truc où tu vois le tracé du rythme cardiaque, la tension artérielle qui s'affiche, la saturation, donc la quantité d'oxygène. Et généralement, ces machines font aussi des électrocardiogrammes. Donc tu te rends auprès du patient avec ce gros machin, un sac à dos dans lequel tu as de quoi perfuser, beaucoup de médicaments différents. Donc les médicaments d'urgence, t'en as pas des tonnes, t'as une vingtaine de médicaments importants, t'as toujours les mêmes dans à peu près tous les sacs. Et donc t'arrives auprès de la personne, tu lui demandes ce qui se passe si elle est en mesure de parler, sinon généralement c'est les témoins et le pompier, ce qu'on appelle le chef d'agré, qui va donner son premier bilan. Quand on est arrivé, il se plaignait de telle douleur, il avait telle tension, telle peau, telle saturation, il parlait plus, etc. Vraiment la question centrale en situation d'urgence, c'est les constantes vitales. Et on va dire ce qu'on appelle les signes de gravité. Et généralement, t'en as pas un quintal, quoi. Hein. Il faut te faire une idée très rapide de est-ce que la situation est catastrophique ou pas, à partir de ces différentes choses. Une personne qui a une douleur dans la poitrine, mais qui a une tension normale, une saturation normale, un pouls normal, elle va pas te claquer dans les doigts immédiatement. Une personne auprès de laquelle t'arrives, les pompiers te disent il est inconscient, il a une respiration superficielle, c'est ça qui va vraiment te permettre de faire ce qu'on appelle un bilan de la situation. Les premières interventions que tu fais, tu sais si tu peux faire ce métier ou pas, quoi. Moi je savais pas du tout, hein, j'avais pas de notion préalable, hein, sachant est-ce que quand je vais arriver, je vais m'effondrer, me mettre à pleurer, parce que à la limite ça pourrait se comprendre, ou est-ce que tu tiens le choc et justement tu calmes plus ou moins tout le monde. Alors parfois, dans les premières interventions, c'est très drôle parce que c'est toi qui es le plus paniqué, alors que l'infirmière qui a 50 années de bouteille, c'est elle qui calme le jeu. Ça peut même être parfois le chauffeur qui a 50 ans et qui a tellement d'expertise du métier qu'il est plus efficace que toi. Dans un certain nombre, dans les premières interventions que tu fais dans ta vie de médecin urgentiste en SAMU, t'es presque une encyclopédie sur pattes, en fait. C'est-à-dire que toi, t'as ton savoir. C'est-à-dire que tu sais à quoi est due la pathologie, comment tu vas la guérir, etc. Mais tous les gestes pratiques, quand tu te retrouves avec un corps entre les mains, un corps souffrant, une famille qui crie, des pompiers qui sont des volontaires, donc qui sont des personnes comme toi et moi, et qui peuvent être paniquées par ce qui se passe. Cette manière de rassurer ce qui peut être parfois une dizaine de personnes, ça c'est pas un truc que t'as dès le début, quoi. Tu sais plus ou moins comment ça va tourner avec l'expérience, même si tu peux avoir des surprises. Mais j'allais dire, le principe de base, c'est de te dire tout le temps ça va mal tourner. Comme ça, tu as toujours un coup d'avance sur les événements. Et ça te permet de rester calme. Ce qui fait que, du coup, la situation te semble jamais catastrophique. Et t'en arrives même à des réflexions qui sont un peu cruelles, mais où tu te dis, dans certaines situations, bon, finalement, au pire, ce qui peut se passer, c'est qu'il peut mourir. Si tu colles trop à la situation, tu perds tes moyens. Le médecin, il est dans la situation où il va faire assez peu de gestes. Lui, il va recueillir les informations. Il faut savoir ce qui s'est passé, quand ça s'est passé, et comment ça a évolué. Et donc, à partir de tout ça, c'est ce qu'on appelle l'histoire de la maladie. Tu vas reconstituer, te faire un faisceau d'indices, à partir duquel tu vas te dire, bon, bah, c'est probablement ça qui se passe. Donc ça peut être si ça, ça, quels sont les premiers réflexes à avoir, bah, c'est si ça, ça, et si c'est pas ça, bah, c'est autre chose, et ainsi de suite. T'as toujours plusieurs étapes, enfin, les étapes, c'est à peu près toujours les mêmes, hein, c'est-à-dire histoire de la maladie, signes ressentis par le patient au moment où tu le vois, examen clinique, examen paraclinique, c'est-à-dire tout ce qui est appareil, etc. Donc par exemple l'électrocardiogramme, la radio, des choses comme ça. Donc en l'occurrence, en SMUR, ça se limite très très souvent à l'électrocardiogramme. Et en fonction de tout ça, tu vas obtenir plusieurs arguments qui vont te faire dire « bon bah c'est ça, c'est sûr ». En moyenne, on va dire que faut qu'en 10 minutes, ça soit torché. Hein. Quand tu arrives sur un arrêt cardiaque, par exemple, tu vas pas prendre le temps forcément de parler tout de suite. Tu vas d'abord dire « bon bah alors, toi tu masses, toi tu mets une perfusion, tu fais tant d'adrénaline ». Et pendant que ces actes, une fois que tu as donné les instructions, se réalisent, tu as un temps qui se libère, et là tu vas voir la famille. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il a comme problème de santé? Il prend quoi comme médicament? Voilà. Il faut vraiment que tout le monde ait... Il y en a un qui masse, il y en a un qui ventile, un qui perfuse et un qui prépare. Généralement, c'est les pompiers qui massent. Ils se relaient, ils sont trois. Masser, c'est très fatigant. Quand tu le fais bien, c'est épuisant. Généralement, le chauffeur, lui, prépare les ampoules, sort le matériel. En attendant, l'infirmière, elle a perfusé, posé les patchs de l'électrocardiogramme. Elle arrive, elle te tend l'électrocardiogramme, généralement. Et là, tu vois une modification de l'électrocardiogramme et tu te dis, putain, bon, là, c'est un infarctus, c'est évident, ça saute aux yeux, etc. Là, vient l'étape où tu vas administrer les médicaments. Donc, si si ton patient il est vraiment pas bien du tout, faut qu'il ait deux perfusions. Tu vas décider de mettre de l'aspirine, de fluidifier énormément le sang, de calmer la douleur avec de la morphine. Et puis d'aider le patient à respirer. Alors ça peut être avec ce qu'on appelle un masque à haute concentration, qui sont ces masques avec un petit sac en dessous qui sont reliés à une bouteille d'oxygène. Ça peut être avec un respirateur. Si le patient est dans le coma, tu peux avoir une nécessité à faire ce qu'on appelle une intubation, c'est-à-dire faire passer un tuyau en plastique de la bouche vers la trachée. Tu mets en place ton respirateur et après, du coup, j'allais dire, t'as le temps de te poser. Parce que tu sais que les voies aériennes, elles sont sécurisées, que le patient reçoit de l'oxygène, qu'il est massé. Et donc, après, tu vas suivre ton protocole pharmaceutique, on va dire, de réanimation d'un arrêt cardiaque. Généralement, le temps passe, souvent très vite. Si dans les 45 minutes, j'allais dire, ton patient, il est vivant, c'est bien, sinon, il est mort. Mais en dehors de ça, les premières fois, tu paniques un peu, tu es très 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 concentré sur ce qui se passe parce que c'est la première fois que tu l'expérimentes, hein. Je crois que ça c'est vrai pour n'importe quelle situation. Et puis après, l'expérience venante, tu vas prendre de plus en plus d'assises dans cette situation, tu vas connaître de mieux en mieux ton protocole et tu vas recueillir les informations de plus en plus vite, avoir des hypothèses diagnostiques de plus en plus rapides. Et puis aussi, te faire une idée de plus en plus précise du pronostic. Sans vouloir avoir l'air trop pessimiste ou trop inhumain, si on t'annonce dans la région, par exemple, un arrêt cardiaque d'une dame de 80 ans à 50 minutes de trajet, elle est morte. Voilà. Je veux dire, tu pars, mais c'est pour faire un certificat de décès, quoi. J'allais dire. D'ailleurs, c'est très. Dans un certain nombre de situations, le SAMU est devenu une sorte de manière différente de célébrer l'extrême onction, quoi. Je veux dire, c'est. Tu viens dans un souci beaucoup plus. Presque religieux, quoi. C'est normal de faire semblant, parfois, de pratiquer des gestes de réanimation sur une personne. Parce que dans notre manière de vivre la mort, c'est normal d'essayer. Tu vois ? Même si une personne de 90 ans qui est en maison de retraite, parce qu'elle est, elle a le cerveau très abîmé et que c'est la fin de sa vie, si la famille est présente, tu dois faire semblant. Tu vois ? Surtout attention de ne pas réanimer. Parce que ça, c'est de l'acharnement thérapeutique. Hein, depuis quelques années, ce serait criminel de faire quelque chose dans la mesure où, dans la loi Leonetti, il est spécifié que on ne peut pas poursuivre des gestes médicaux dans le seul but de maintenir la vie. Et ça, c'est un texte de loi. Donc maintenant, aujourd'hui, il est, et heureusement, illégal, enfin, il est puni par la loi, de ressusciter une mamie de 98 ans parce que ça te fait plaisir, quoi, parce que tu te sens omnipotent quand tu le fais. Un passage en réanimation, c'est dur. C'est des piqûres, ça fait mal, c'est être allongé tout le temps, on perd ses muscles, c'est pas manger, c'est tout réapprendre, c'est des moments de difficultés extrêmes. Donc t'as toujours la question de savoir, est-ce que c'est faire le bien pour cette personne que de lui imposer ça ? Il y a toujours le rapport. Une des règles qui régit notre métier, c'est le rapport bénéfice-risque. Qu'est-ce que la personne risque ? Qu'est-ce qu'elle va recevoir ? Et toutes tes décisions vont être guidées par ça. En ton âme et conscience, faut assumer. Il faut assumer. Tu passes ton temps à assumer des choses. Ils font des gestes que personne ne fait, personne d'autre. C'est un peu comme les réas, les maîtres de la vie ou de la mort, quoi. Tu vois, enfin, je veux dire, c'est quand même très dur de pas te laisser dépasser par ça. C'est quand même super dur de rester humble. C'est pas évident du tout, hein. J'allais dire, heureusement que des fois, tu fais des énormes bourdes pour te dire, putain, je suis vraiment une merde. Tu vois, parce que sinon, c'est assez facile de devenir sûr de soi et dominateur, entre guillemets. Et puis en plus, c'est vrai que c'est une bonne forme de remède. Parfois, tu n'as pas d'autre solution pour continuer à ne pas paniquer et à être efficace. Quand tu es persuadé que tu as n'importe quelle situation en main, tu es sûr de ne pas paniquer. Être désaffecté par rapport à une situation ou à ce qui se passe, c'est une manière de se protéger aussi. Enfin, je veux dire, la première fois que tu vois un gamin démembré, tu vas en rêver la nuit, etc. Donc après, j'allais dire, c'est pas toi qui choisis de trouver l'équilibre, hein. C'est ta constitution qui fait que soit tu vas continuer à pleurer quand ça arrive, soit tu vas complètement te blinder et être odieux dans n'importe quelle situation. Je me suis pas dit, je choisis pas de pas me blinder. Mm-hmm. Ah, c'est après. Une expérience. Je sais que je m'identifierai toujours à ce qui se passe. Je pourrais jamais faire autrement. Inch'Allah, je vais trouver un équilibre. Je vais continuer à être dans un équilibre où j'arrive à ne pas paniquer. Mais je sais très bien que c'est aussi important pour les gens qui m'entourent que pas forcément évident pour moi. Et d'ailleurs, je travaillais cette nuit avec un médecin urgentiste qui était intérimaire, qui a 45 ans. Lui, ça fait 2 mois qu'il est en dispo, qu'il arrête, quoi. Il arrête. Il ne peut plus vivre la mort en permanence. Il a arrêté. Il a arrêté parce qu'il ramenait la mort à la maison. Et que la mort s'étendait partout. Je veux dire, ça, c'est pas possible.
Mais oui, en fait,
Monsieur Sempic.
Moi, je trouve que la mort, c'est une question en soi très intéressante. Quand tu le poses comme une question, du coup, tu le mets à distance. Mais je vais dire ça encore, c'est quelque chose de très, très personnel. Moi, j'en fais une question qui est collective, elle ne m'appartient pas. La gestion de la mort, c'est une question de société. Enfin, je veux dire, je ne suis pas la personne qui gère la mort. C'est une question de société, enfin... Une des histoires qui m'avait le plus marqué, le plus choqué, c'est la mort d'un jeune mec de 30 ans qui aurait pu être un de mes copains, parce qu'en l'occurrence, il avait un C15, des cheveux longs, des dreadlocks, qui s'est fait percuter par un 4x4 de face, il allait se marier, il avait une petite fille de 2 ans, son copain qui était à côté de lui a survécu, il était très choqué, mais lui, il était dans un état difficile à décrire, quoi. Enfin, il était... je sais pas quel est le terme, mais il était... éclaté. Il était dans un état... où tu te dis, c'est pas possible qu'un corps humain soit dans cet état. C'est d'autant plus délicat que le visage est encore intact, etc. Et puis toi, t'essayes quelque chose. Tu peux pas rien faire. Et tu vois que y a rien qui marche, que tout est détruit. T'as vraiment cette impression de destruction totale. C'est-à-dire t'es désarmé. T'es désarmé, la mort elle est déjà là. Enfin, je veux dire, quelque part. Moi avec le recul aujourd'hui, j'aurais rien fait. J'aurais rien fait, j'aurais juste constaté le décès, je crois. C'était il y a quand même pas mal d'années, donc j'étais encore dans quelque chose de différent, de peut-être plus anxieux, plus stressé, moins d'expérience, moins de notions. Je n'étais pas forcément habitué aux accidents de la route, etc. T'es dépassé par ce qu'un corps peut devenir, quoi. Quelque chose de vivant, de beau en plus. tu vois, de jeune, de d'harmonieux. Y a quelque chose qui colle pas entre ces deux images. Ce gars 4, il a été percuté parce que la personne utilisait un téléphone portable en conduisant. Le mec, il avait un C15 parce que il avait pas de pognon. Enfin, je veux dire, tout ça, c'est des questions collectives. C'est pas des questions qui ne font que me concerner. Et je veux dire, il y a un moment où t'es bien obligé d'accepter la mort dans cette présence-là. Tu t'as pas de prise sur tout. Et c'est ça, d'ailleurs, enfin... Moi, ça m'aide vachement dans ma vie quotidienne de savoir que t'as pas de prise sur tout. Que tous les événements ne sont pas évitables, alors qu'on vit dans une société où on essaie de persuader que tout est maîtrisé, techniqué, etc. Ça te donne un équilibre vachement apaisant. Et c'est vrai que la question de la mort est cachée, mais elle est cachée artificiellement. On va tous être confrontés à la mort. On confie, on délègue la fin de la vie à quelqu'un d'autre. La famille n'en fait plus partie, ou dans de rares cas. Elle fait de moins en moins partie de la vieillesse, d'ailleurs. On délègue à des services qui deviennent de plus en plus publicitaires, que ce soit les maisons de retraite ou les soins palliatifs. Mais ce qu'on refuse de voir, alors que c'est pas tant que tout le monde en fait l'expérience, c'est que t'as pas intérêt à mourir ni le week-end, ni après 20h. Parce que t'es tout seul. Les équipes de soins palliatifs, il y en a très peu. Dans les équipes de soins palliatifs, des médecins de garde, donc des gens qui peuvent administrer des trucs, il y en a très peu. Les maisons de retraite, elles sont désertées par les médecins. Il faut savoir qu'une maison de retraite qu'on appelle médicalisée, c'est deux aides-soignantes dans la maison de retraite. C'est même pas une infirmière. C'est-à-dire que c'est pas des gens qui ont la capacité de poser une perfusion, d'administrer un médicament sur une prescription médicale faite à l'avance. C'est même pas ça. Il faut savoir que trouver de l'oxygène pour accompagner une personne qui respire mal, pour le soulager, après 20h ou en week-end, c'est impossible. C'est pas faisable. Du coup, c'est nous qui le faisons. Mais sauf qu'on n'est pas du tout, à notre place. Ça peut paraître quand même paradoxal pour un service de réanimation de se charger de l'accompagnement vers la mort, qui est quelque chose de long, quelque chose d'intime. C'est quelque chose, à mon sens, où devrait être présent un soignant que tu connais, qui connaît cette personne, qui souvent t'arrive, t'es au milieu de papier, la situation elle est pas claire, qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on fait quelque chose, est-ce qu'on fait pas, dans le doute, tu fais, la famille arrive, mon Dieu, mais qu'est-ce que vous avez fait, y a pas cette personne, y a pas ce soignant qui lui sait ce qui se passe, parce qu'il connaît cette personne depuis longtemps, parce qu'il sait que la famille a compris ce qui se passait, parce qu'il sait que le patient il est au bout. Parce que ce qu'il faut faire, c'est l'accompagner avec de la morphine et un somnifère. Ça, il faut bien avoir conscience qu'aujourd'hui, en France, ça n'existe pas. Ça n'existe pas du tout. Je viens boucher les trous de la société qui ne veut pas voir ce qui se passe. À part les urgences, il n'y a rien.
Informez préalablement le cadre infirmier du service de votre souhait. Aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans votre accord. Consentement est éclairé. Dans le cadre d'un entretien, le médecin vous explique les différentes possibilités de votre prise en charge.
Par rapport aux histoires de centrales d'appel du SAMU, je veux dire, on pourra mettre tous les robots d'aide à la décision, à la régulation. Tu ne pourras jamais remplacer le médecin régulateur par quelqu'un qui... quelque part, dégage sa responsabilité sur un ordinateur et un arbre décisionnel. C'est pas possible. Tu vas avoir une multiplication des parts pour rien ou des ratés. J'en suis intimement persuadé. Aujourd'hui, y compris dans la santé, on a une évaluation quantitative du travail. Combien d'appels on va être en moyenne en mesure de gérer par heure? Combien de machins on va, etc. Ce qu'on regarde pas, c'est la qualité de cette gestion. C'est combien d'appels on est capable de gérer. C'est tout. Je reçois la moyenne d'appels gérables par un médecin, en théorie, c'est 8 par heure, je crois, un truc comme ça. 8 affaires par heure. En théorie, t'as ce seuil-là. En pratique, en une heure, moi, il y a des fois où un cas psychiatrique, si je souhaite le gérer correctement, j'ai besoin d'une heure. J'ai besoin de rappeler. J'ai besoin d'envoyer quelqu'un. J'ai besoin que la famille arrive. J'ai besoin, etc. Et ça, ça demande un temps, une concentration énorme. T'as que ton téléphone, tu vois pas, t'es pas sur place. Donc, l'évaluation juste, elle prend du temps. Et plus ta évaluation, elle est juste, et plus ta réponse, elle est juste. Donc, évidemment, il faut pas tomber dans l'extrême inverse. Tu vas pas tergiverser 45 minutes pour savoir si la personne a un arrêt cardiaque ou pas. Donc, il faut avoir une idée raisonnable du danger. Mais par contre, pour tout ce qui est conseil médical, et même parfois temps de recueillir précisément les signes. Mais il te faut du temps. Il te faut du temps. Vous avez mal dans la poitrine, ça a commencé quand? Vous avez quoi comme problème de santé, etc. Là, on en arrive à une situation sur Marseille où douleur dans la poitrine, paf, t'envoie. Le mec, ici, il n'a pas le temps de demander « Mais vous êtes où ? Et alors, c'est où par rapport à l'hôpital ? C'est quoi l'hôpital le plus proche ? Est-ce que vous avez des problèmes de santé ? Est-ce que machin ? Est-ce que truc ?» Enfin, je veux dire, c'est un souci de gestion quantitative comme on en a partout. Une dame qui est tombée de son hamac. Le hamac, il est à 80 cm de hauteur. Elle tombe, elle a mal au dos. La famille m'appelle complètement paniquée. Ma mère n'arrive plus à se relever. Quand tu reçois cet appel, tu as la possibilité d'envoyer une équipe médicalisée, donc médecin, infirmière, chauffeur, plus pompier. Tu as la possibilité d'envoyer les pompiers. Tu as la possibilité de discuter. Si tu envoies ton équipe médicalisée et que 5 minutes après, on t'appelle, mon père de 40 ans, mon conjoint de 40 ans ne respire plus, je ne sais pas ce qu'il a, il est tout blanc, il ne parle pas, je crois qu'il est mort. Qu'est-ce que tu fais ? T'as plus d'équipe. Qu'est-ce que tu fais ? T'es dans la merde. T'as fait mourir quelqu'un. T'es borné à « ma mère est par terre, elle n'arrive plus à se relever ». T'as pas posé d'autres questions. Tu es parti du principe qu'elle pouvait être paralysée. Tu as envoyé, au cas où il y a une fracture de la colonne vertébrale avec une compression de la moelle épinière, une équipe médicale pour évaluer la situation. T'as un arrêt cardiaque à côté, le mec il est mort. Bien sûr, moins tu vas avoir d'informations, plus tu vas penser à des risques nombreux, et moins tu vas avoir envie de risquer d'aller en prison parce que la personne avait un truc grave. C'est-à-dire, c'est la logique même. Mais là, on rentre bien dans une dépossession de ta compétence, puisque tu n'es plus en mesure de l'utiliser, puisque de toute façon, tu n'as pas de matériel à recueillir. Si, pour ce qui s'est passé, tu dis, attendez, votre mère, qu'est-ce qu'elle a ? Le mec qui se met en colère, ouais, mais pourquoi vous discutez ? Vous n'envoyez pas les pompiers, etc. Non, monsieur, pour l'instant, je n'envoie pas les pompiers. Votre mère, elle parle, je l'entends, donc c'est qu'elle est vivante. Qu'est-ce qui s'est passé précisément ? Est-ce qu'il y avait une pierre en dessous ? Est-ce que, etc. Non, il n'y avait rien. Est-ce qu'elle est capable de se mettre assise ? Oui, elle peut se mettre assise. Est-ce qu'elle peut se mettre debout ? Oui, elle peut se mettre debout. Bon, bah écoutez, de toute évidence, s'il n'y a pas de douleur précise au niveau de la colonne vertébrale, que la douleur elle est plutôt sur le côté, qu'elle est capable de bouger les jambes, qu'elle n'a pas de fourmis, que ainsi de suite, etc., tu recueilles toutes ces informations, tu te dis, bon, bah, elle est tombée à la malle. Résultat, tu as économisé un passage aux urgences, tu as économisé un déplacement de pompiers. Tout ça, allez, soyons cyniques, parlons en termes économiques. D'accord ? En termes financiers, tu as économisé de l'argent. Tu as économisé un passage aux urgences. Tu as économisé la mobilisation de l'équipe de pompiers. Tu as gardé tes moyens d'intervention disponibles. Tu as rassuré la personne. Tu as guéri quelqu'un. D'accord ? Pour peu que tu conseilles par téléphone, prenez un gramme de Doliprane. Mais tout ça, c'était une conversation qui a duré 10 minutes, un quart d'heure, je pense. Voilà. Quand tu as une 10 minutes, un quart d'heure, ça veut dire en une heure, je peux en avoir 4, raisonnablement, je peux en faire 4, je peux pas en faire 8. Voilà. Moi, je considère que je peux pas. Et si on me demande de le faire, eh ben, je ferai un autre métier. Des régulateurs, j'en rencontre. Alors, peut-être que ce que je vais dire va pas être... si c'est entendu, ça va pas être bien vécu, mais je l'invente pas. Enfin, je veux dire, j'ai des confrères et des consoeurs qui sont plus âgés ou qui ont le même âge que moi, qui font de la régulation sur Marseille depuis un certain temps, et qui me disent « c'est plus possible, on se les refile les gardes de régulation, on les vend, on fait tout pour pas le faire, parce que c'est insupportable. Ça consiste à décrocher le téléphone, dire « on vous envoie quelqu'un », je veux dire « c'est terminé ». Ils ne veulent plus participer à ça, ils veulent plus. Il y a des médecins qui effectivement ne veulent plus faire ça. Quant aux médecins urgentistes qui partent en SAMU et qui sont déclenchés 8 fois par 24 heures, dont 6 fois la nuit, pour des douleurs thoraciques chez des gens de 18 ans qui n'ont rien, je te garantis que le lendemain, ils ont les cernes comme ça, ils n'en peuvent plus, ils sont épuisés, ils savent qu'il n'y a pas eu de réflexion derrière. Ils comprennent qu'il y a une déstructuration de la compétence et ça leur est insupportable, ils s'en vont. Ils s'en vont. Ils vont faire autre chose.
Ah, les 3 jours, c'est clair. Alors, on va faire une semaine de 3 jours. Ah,
aux urgences, on apprend à faire de la médecine turbo. Ou alors, il y a l'inverse, que moi, enfin, je veux dire, je découvre un petit peu, là, c'est que c'est un petit hôpital. Et du coup, tu redécouvres ce que c'est d'avoir le temps. Parce que moi, je l'avais perdu aux urgences. Dans les urgences bondées, tu peux pas poser des questions comme ça. T'as plus les moyens. Ouais, j'ai une histoire qui est vraiment, vraiment chouette. J'étais sorti en SMUR, il y avait un mec qui avait sorti un couteau sur la place du marché, qui menaçait tout le monde, etc. Alors, t'avais les policiers qui étaient arrivés, les pompiers, etc. Donc, t'avais une dizaine de gros gars costauds qui étaient autour de ce monsieur pour le circonstruire, mais qui ne voulaient pas le toucher. Et moi, j'ai été déclenché pour aller sur place de manière à sédater le monsieur, l'endormir, quoi. Et quand je suis arrivé, j'ai discuté avec le monsieur. Ça s'est terminé qu'il s'est écroulé en pleurs dans mes bras. Il n'était pas fou du tout, ce monsieur. Il était au bout du rouleau, quoi. Ben, on a fini dans les bras l'un de l'autre, tu vois. Je veux dire, comme quand tu consoles quelqu'un, quoi. Donc, je veux dire, voilà une situation typiquement où... Tu te dis, il y a quand même un problème. Quand même un problème, là. Si on n'est plus capable d'accueillir cette souffrance-là. Au lieu de faire des piqûres et des piqûres et des piqûres et des piqûres et des piqûres. Et si t'as plus le temps de faire ça, si ce mec-là, tu te rues sur lui, t'as 4 gars costauds qui te maîtrisent, toi, t'es déjà dans une détresse folle. T'as 4 gars qui te tiennent les bras, les jambes, ils sont costauds, on te baisse le froc devant tout le monde, on te fait une piqûre que tu veux pas, etc. Et comment tu veux que ça se passe bien? Alors c'est sûr, au moins tout le monde est tranquille. C'est réglé en 10 minutes, tout le monde est tranquille. Mais pour le patient, tu me feras pas croire que c'est la prise en charge optimale. Je crois que c'est dans le serment d'Hippocrate, on est censé prendre en charge chaque personne comme si c'était la personne la plus importante à nos yeux. Et moi, je crois pas que quand on fait comme ça, on respecte ce serment. Si tu veux, le pompon, ça a été, quelques jours avant que je parte, une infirmière se fait mal en soulevant un brancard, elle se bloque complètement le dos, elle est obligée de rentrer chez elle. Elle pouvait clairement pas travailler dans ces conditions, c'était pas possible. Donc il nous manque une infirmière. Donc, j'appelle la direction de l'hôpital, je dis, écoutez, on a un gros problème, on a une infirmière en moins, le médecin avec qui je travaille et moi-même, on pense que ça va poser une situation dangereuse pour les patients, il faut trouver une solution. Bon, la réaction de l'administration, c'est de poser plus ou moins une fin de non-recevoir dans la mesure où ils ne peuvent rien faire. Bon, ok. Quelques heures passent, un patient arrive, 50 ans, pas d'antécédent, première crise d'épilepsie. Il descend au scanner, pas de saignement dans la boîte crânienne, il récupère difficilement sa crise, mais il récupère. Il est dans une salle de déchocage, comme c'est le cas de manière adaptée. Et là, on était trois médecins, je crois. Il y en a un qui était parti en SMUR. On restait deux, et une infirmière en moins, et du monde de partout, l'équipe plus débordée que d'habitude, bien sûr, parce qu'il y a une infirmière en moins, et une infirmière en moins, c'est une surveillance en moins. Parce que si le médecin il surveille le patient toutes les 10 minutes, eh ben, il n'est pas en train de voir un patient toutes les 10 minutes. Et ce monsieur a fini par se vomir dans les bronches. Parce qu'il avait des troubles de la conscience. Il a refait une crise, en fait. Et personne n'était là pour le mettre en position latérale de sécurité. Il a vomi, c'est tout parti dans les poumons, il a fini en réanimation. Voilà. Donc on a clairement, par une dégradation des conditions de travail, provoqué l'engagement du pronostic vital d'un patient. Moi, ma réaction, ça a été, avant que ça arrive d'ailleurs, d'appeler la direction en disant clairement. Je vous préviens, ce qui se passe à partir de maintenant n'est plus sous ma responsabilité, c'est la vôtre. Si jamais il se passe quelque chose, vous aurez un procès. Mais je refuse d'être impliqué dans ce qui va se passer à partir de maintenant. Et ça a été... Je ne sais pas si ça va encore arriver. Ce que je sais, c'est qu'actuellement, l'hôpital dans lequel je travaille, il y a un flux qui est moins important... Et je me sens plus en sécurité. Et je sens mes patients plus en sécurité. Clairement, ce jour-là, dans cet hôpital-là, on ne pouvait pas assurer un travail de qualité. Le problème, c'est qu'assurer un travail de qualité, quand on parle d'une chaîne de montage, c'est un problème. Quand on parle de la vie des gens, moi, personnellement, c'est même pas de la colère, c'est même pas du dégoût, c'est inexprimable ce que je ressens. On parle d'un être humain qui pourrait faire partie de ta famille. Enfin, je veux dire, tu peux pas te contenter d'afficher une indifférence polie. C'est pas possible. Tu vois ? Enfin, je veux dire, là, il s'agit plus de dire simplement les urgences sont débordées, les médecins urgentistes sont fatigués. C'est pas le problème. On s'en fout de ça. On essaie de réduire l'effectif des infirmières. Je veux dire, il s'agit pas de se plaindre sur les conditions de travail. C'est pas le problème. Moi, je veux bien être surchargé. C'est pas grave si je suis fatigué. C'est même pas grave si je fais un infarctus à 50 ans. Mais ça me dérange de tuer des gens. Ça me gêne. Et ça, c'est... Je t'avoue que je suis surpris. Enfin, je veux dire... Dans les reportages télévisuels ou radiophoniques, j'ai pas l'impression d'entendre ce constat qui est clairement formulé. Qui est pas simplement... On parle de dégradation des soins. Mais il s'agit pas de parler de dégradation des soins. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. C'est de la mise en danger d'autrui. C'est clairement, vous allez être plus malade, vous allez être plus mort. On sait même comment faire mieux. Mais je veux dire... Il y a un outil de veille sanitaire qui est interconnecté entre toutes les urgences, qui converge vers l'Agence régionale de santé et qui permet de déclarer l'hôpital en tension. Ce qu'on appelle l'hôpital en tension, c'est quand en fait ton hôpital est plein, t'as plus une place, zéro, rien. Plus une place en réanimation, plus une place en service. Et que tes urgences sont pleines, que donc tu ne peux plus stocker de patients. Tu ne peux plus hospitaliser de gens. Tu ne peux que gérer le flux et puis continuer à entasser. Voilà. Cet objet de veille sanitaire, je voudrais savoir à quoi il sert. parce que depuis que ça existe, je n'ai jamais vu une seule mesure mise en place pour résoudre le problème. Jamais. Les lits des hôpitaux ont continué à fermer. Les patients continuent à venir. Et les urgences en tension, je crois que j'ai vu l'hôpital Lobagne en tension pendant une semaine. Une semaine. Il faut se rendre compte de ce que ça veut dire quand même. Ouais. Pendant une semaine, plus de place dans l'hôpital, les urgences bondées et des patients que tu ne peux plus hospitaliser. C'est plus possible. Ça veut dire une personne de 80 ans, ta grand-mère se pète la gueule, casse le col du fémur, elle va passer la nuit sur un brancard aux urgences. S'il y a des brancards. Si t'as de la chance. Bah si, elle a de la chance. Voilà. C'est ça que ça veut dire. Voilà. C'est... il faut bien poser la question, qui à mon avis est centrale. Est-ce que la société, la population française dans son ensemble, toi, moi, tout le monde, ta famille, accepte qu'il y ait des pertes? Est-ce qu'elle trouve normal que ces pertes augmentent? Ça fait encore partie des métiers dans lesquels tu peux vivre. Ta personne peut vivre, ta personne a une place. À la fin, il reste toi et ton patient, et ta décision, et que tu peux te construire là-dessus.
La parole au travail, une série documentaire de Christophe Massot.